Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'À vous l'antenne, enregistrée exceptionnellement en public depuis la salle d'accueil de Fadjet. Un À vous l'antenne exceptionnel réalisé dans le cadre de la semaine Égalité Fraternité AJC, organisée par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, qui se déroule jusqu'au 22 mai et qui propose différents temps forts autour d'animation, d'expositions, de débats, de films, afin de mettre au cœur du débat public la question des discriminations. Et le thème de la rencontre qui nous concerne aujourd'hui est « Vivre avec un minima social, quelles conséquences ?» Mes invités du jour sont directement concernés par la question. Il y a autour de la table David, Frédéric, Shirley, Olga, Meki. Ils sont bénéficiaires d'un minima social et vont nous partager bien sûr leurs difficultés matérielles et ou personnelles, les préjugés dont ils se sentent trop souvent victimes, mais aussi leurs projets, leurs rêves et leurs propositions pour faire changer les choses et surtout les regards. Alors comment va se dérouler cette émission ? Nous allons échanger tous les six pendant une quarantaine de minutes et ensuite, bien vous, public, vous pourrez réagir à ce que vous avez entendu et poser, bien sûr, vos questions. Mais sans plus tarder, on va commencer par faire connaissance avec vous, mes invités. Et en quelques mots, je vais vous demander de nous partager quelques étapes de votre parcours, de votre histoire, pour nous dire à votre manière un peu qui vous êtes, en sortant de l'étiquette, bien sûr, bénéficiaire de minima sociaux. Une manière peut-être de rappeler qu'on ne naît pas, N-A-I-T, bénéficiaire d'un minima social, et qu'on n'est pas, N-E-S-T, non plus uniquement bénéficiaire d'un minima social, qu'on a un parcours, une histoire, une vie. À vous, l'antenne. On commence avec Olga. En quelques mots, Olga, vous pouvez nous dire un petit peu, à votre manière, qui vous êtes, ce que vous avez envie de nous dire de vous.
Bonjour, je m'appelle Olga, je suis originaire de l'Amérique du Sud, je suis avocate, j'habite en France depuis 2 ans, je suis bénéficiaire de ça à peu près un an et demi.
Depuis un an et demi.
Oui.
Voilà un petit peu ce que vous avez envie de nous dire en première présentation.
Oui.
On reviendra, on échangera tout à l'heure, on ira un petit peu plus loin sur les étapes de votre parcours et voilà. À côté de vous, il y a Frédéric. Bonjour Frédéric.
Bonjour. Je m'appelle Frédéric, j'ai 50 ans, bientôt 51 dans 3 mois. J'ai un parcours long et compliqué.
Oui.
J'ai un peu raté mes études dans les années 70.
Oui.
J'ai été veilleur de nuit au foyer Sainte-Anne pendant longtemps, puis au 156 boulevard d'Austrasie. J'ai travaillé également 2 jours. J'étais bien intégré à une équipe. On m'avait proposé une formation professionnelle par cette entreprise. Et puis quelqu'un d'autre a eu la place. Alors je suis parti travailler dans le sud. J'ai travaillé à Ascométal et à la Solac à Fos-sur-Mer en tant qu'intérimaire. Je suis revenu, j'ai de nouveau retrouvé du travail après des périodes de chômage, je fais vite, même si ça dure longtemps le chômage, au foyer Grand Sauvois avec Monsieur Morel. Ensuite, de nouveau du chômage, de nouveau j'ai retravaillé, alors j'ai travaillé un peu partout, j'ai fait je sais pas combien de
boulots différents. Pas mal de choses différentes,
Beaucoup
niveau activité professionnelle.
Et puis jusqu'à un moment où on m'a reproposé une formation justement pour travailler dans un autre foyer. Voilà. Et puis là, ça n'a pas marché. Donc j'ai refait un CDD qui s'est transformé en fait en contrat aidé de 1 an, toujours au foyer au 156, qui s'appelait Lars à l'époque. Voilà. Ça avait changé de nom et changé de directeur. Et puis, la formation s'est arrêtée. Enfin, le travail s'est arrêté. Je me suis retrouvé au chômage. Et pendant, ça fait 2 ans que je suis bénéficiaire du minima social. Le RSA.
Du RSA.
Voilà.
OK. Donc là, une expérience professionnelle avec plusieurs emplois. Et puis, à un moment donné, des choses qui ne se passent pas comme on veut. Et on arrive au RSA. On y reviendra tout à l'heure. On passe à Meki. Bonjour Meki.
Bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Meki. Je n'ai pas eu la chance qu'a eu Frédéric ou la malchance de connaître énormément le monde du travail parce que j'ai été privé de cette entrée-là par la maladie. Je suis tombé malade à la fin de mes études. J'avais fait des études en sciences économiques. Et puis j'ai été interné en hôpital psychiatrique quelques temps après être parti sur Toulouse parce que je voulais essayer de trouver du travail là-bas. J'avais l'impression que j'aurais peut-être plus de chances de trouver du travail là-bas. Donc voilà. Que dire d'autre ? Eh ben que je suis resté pendant 4 années au RMI. À l'époque, c'était encore le RMI. Et puis j'ai obtenu avec une demande qui venait de du psychiatre qui me suivait l'AH, l'allocation adulte handicapé, pardon, qui m'a permis de vivre de manière un petit peu plus aisée jusqu'à présent, quoi. Voilà.
D'accord. Un autre parcours, forcément, aussi différent. On passe à Shirley.
Bonsoir. J'ai fait des études de comptabilité. J'ai commencé à travailler dans mon domaine, dans l'immobilier, dans les banques. Et puis un mauvais mariage qui fait que j'avais pas le droit de travailler. Donc grâce au RSA, j'ai pu permettre à mes enfants de manger. Et puis un jour, j'ai eu le soutien d'une assistante sociale qui m'a permis de partir et de construire une nouvelle vie. Depuis, je fais petit boulot, RSA.
En alternance, quoi.
En alternance, comme on peut.
Merci pour cette présentation. On passe à David, notre dernier invité du jour.
38 ans depuis peu, depuis début du mois. J'ai fait des études supérieures, bac plus beaucoup, pourrait dire certains. Depuis la fin de mes études, j'ai toujours travaillé. Je ne suis pas originaire de la région, même si je n'ai pas l'accent, je viens des Bouches-du-Rhône.
C'est dommage d'avoir perdu l'accent.
Ça, c'était le milieu du travail.
Exactement.
J'ai travaillé donc dans la grande distribution, j'étais dirigeant, j'étais directeur de supermarché. Et depuis 2006, j'ai été diagnostiqué, j'ai eu un diagnostic de maladie orpheline, donc j'ai dû quitter mon travail. Et du fait des barèmes sur les différents remboursements, Pôle emploi et toute la famille, je suis entré directement au RSA. Voilà.
Vraiment merci à chacun pour cette première présentation qui nous permet de voir que vous avez bien sûr tous des vécus différents, souvent une formation assez solide, des expériences professionnelles et puis aussi, on voit bien des accidents de parcours, comme on dit, qui peuvent arriver à n'importe qui et qui vous ont amené à être aujourd'hui bénéficiaire d'un minima social, donc RSA, on l'a entendu, donc revenu de solidarité active, pour redire un petit peu plus que ce sigle, ou l'AH, c'est-à-dire l'allocation adulte handicapé. Alors juste un tout petit mot sur le RSA. Donc le RSA a été créé donc en 2007 par l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, qui était dirigée par Martin Hirsch dans le cadre de la loi TEPA et qui vise justement à garantir un revenu minimum à des personnes ne travaillant pas. En fait, voilà. Mais pendant la préparation de cette émission, donc, vous avez beaucoup parlé de vos difficultés à vivre au quotidien, des conséquences souvent négatives que la perception de ces revenus de solidarité entraîne. Vous avez parlé de la solitude, du regard des autres, du sentiment d'inutilité. On y reviendra tout au long de l'émission. Mais la première difficulté, c'est peut-être tout simplement concrètement le côté financier. Comment on fait effectivement pour vivre avec un peu plus de 400 euros par mois? Je rappelle que c'est le montant mensuel à peu près du RSA pour une personne seule. Alors Frédéric, une des phrases qui revenait souvent dans la préparation, c'est « en fait, on compte beaucoup et on compte tout le temps quand on est au RSA ». C'est un peu ça?
Oui, on compte beaucoup parce que contrairement à ce qui a été dit, le RSA n'est pas de 470 euros par mois, qui est le montant 470 euros, c'est le RSA socle. Dès qu'on a un logement, qu'on ait une aide au logement, donc le logement, on le loue ou que le logement vous appartienne, on a 417 euros. Ce qui change beaucoup parce que ça fait 60 euros en moins et pour des minima sociaux, c'est énorme. 60 euros, par exemple, pour être concret, c'est la moitié de mon budget nourriture. Voilà. Tout donc c'est vraiment pas mal du tout.
Shirley ?
Sachant que pour une femme seule avec un enfant, on ne rajoute que 30 euros.
D'accord.
C'est 430 euros.
Ouais. Donc on voit bien, déjà, même sans rentrer dans le détail, c'est à peu près 400, 450 euros, même si effectivement 30 euros, c'est énorme.
60
c'est vraiment
euros.
Pas.
60 euros, oui, mais 30 euros, c'est pas beaucoup, mais pour une personne avec un enfant. Pour une
exactement. Et donc ça, qu'est-ce que ça entraîne, j'imagine, au niveau peut-être frustration de choses qu'on ne peut pas faire, voilà.
Alors, Frédéric. J'ai pas complètement fini.
Oui.
Moi, pour mon exemple particulier, j'ai 440 euros de loyer à payer. j'ai une aide au logement de 267 euros. Ça me fait RSA plus aide au logement 680 euros. Mmh. Une fois que j'ai eu payé mon loyer, il me reste 240 euros pour payer le gaz, l'électricité et la nourriture. Mmh. Donc en fait, c'est très difficile de s'en sortir. Mmh. On ne vit pas avec un RSA, on survit.
Tout
et toutes les petites phrases qu'on a pu entendre qu'au RSA, on est en vacances toute l'année, sont vraiment... je dirais de la foutaise pour pas dire autre chose. Mmh. Quoi. Voilà.
Surtout quand on a travaillé, j'imagine aussi avant. Ça veut dire que y a forcément des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on faisait avant, des sorties avec des amis.
Des sorties. Moi, je faisais du théâtre. 80 ou 90 euros par trimestre, on peut plus faire de théâtre. On n'a plus de voiture, etc., etc. Hein. On est vraiment. C'est juste le minimum qu'on puisse avoir pour pas se retrouver à la rue ou dans un foyer.
Garder son logement, ça c'est aussi une priorité.
Ça c'est important.
David.
On ne naît pas avec le RSA. Il est vrai qu'avant nous avions tous une vie active, même très active. Et il est vrai que subvenir avec le loyer... les charges, ensuite, si vous avez une voiture, si vous avez un autre moyen de locomotion, plus les enfants, il est vrai que 417 euros, ça vous fait un choc. Surtout après, si vous avez eu une situation, professionnelle, assez élevée.
Oui, c'est ça aussi, c'est un changement de vie complet. Mais qui veut intervenir ?
Moi, je sais que à l'époque où j'étais étudiant, y a une petite inexactitude dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai quand même travaillé quand j'étais étudiant. J'ai travaillé pendant les vacances scolaires, les périodes scolaires et tout ça. Mais je sais que je vivais mieux que maintenant, alors que je touchais moins. Vivais mieux. J'avais une vie sociale. J'avais tout ce qui est offert aux étudiants dans la cité nancéenne pour pouvoir s'occuper. Et j'avais véritablement l'impression de participer à la vie de la ville, à la vie de la société. Je me sentais pas du tout isolé ou à l'extérieur de tout ça.
Ça c'est très important aussi ce que vous dites, Mickey, parce que ça veut dire que là on parle purement du côté financier. Des fois qui n'est pas connu par les gens qui sont pas dans cette situation-là. Et on voit bien que ce côté financier, c'est pas uniquement pour dire on n'a que 400 euros, mais que le fait d'avoir que 400 et quelques euros par mois, ça bloque des choses au niveau des relations sociales, du lien social aussi. On ne peut peut-être plus sortir comme on voudrait. Frédéric disait aller manger avec des amis, par exemple, c'est compliqué.
C'est pas possible. Un restaurant, c'est 20, 25 euros. Moi, si je vous découpe le budget, c'est 26 euros pour un abonnement portable 2 heures. Alors, il y en a qui vont dire, Free fait des abonnements portables à 2 euros. Gaz, électricité, en moyenne, c'est 60, 70, 75 euros. Ça dépend des mois, mais... Bon, plus la nourriture, il nous reste pas grand-chose.
Exactement, pour les à côté, qui sont souvent essentiels aussi pour la vie, comme on dit, mais qui disaient, je vivais mieux.
Pour tenir le quotidien, que ça soit pas tout le temps chez soi, rentrer, chercher du travail, chez soi, rentrer, chercher du travail.
Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Et quand, on entend bien dans ce que disait Mickey, quand il dit je vivais mieux, c'est pas le côté financier, c'est le côté je vivais, j'avais des relations.
Oui.
C'est
oui,
ça qui était important.
Oui, tout à fait.
Olga.
Et oui, mais je pense que aussi le côté financier, ça compte aussi parce que quand on devient RSA, et la qualité de vie descend aussi.
Bien sûr.
Ça veut dire que je risque de tomber malade si je ne peux pas me chauffer pendant tous les hivers. Mais aussi la qualité de la nourriture aussi, ça change beaucoup.
Là aussi,
de manger
des
choses fraîches, du poisson par exemple, après acheter des choses en conserve. Ça change beaucoup.
Forcément, il y a la qualité relationnelle et du coup la qualité aussi de vie.
Vie
on n'a plus forcément le choix. Vous avez ce sentiment-là de plus avoir le choix. On est obligé d'acheter
de prendre
des
quelque chose, par exemple un fromage. On est obligé à prendre presque tout le temps les mêmes choses. On ne peut pas se permettre de choisir un fromage un peu plus cher. Des choses comme ça.
David.
Ne cherche pas un produit de qualité. Lorsque l'on a un souci d'ordre médical, il y a des choses dans l'alimentaire où on doit faire attention. Il est vrai que, comme le disait Frédéric, une fois que tout a été déduit, on est bien embêté. On en discutait la dernière fois lors des préparations. Il est vrai que nous vivons le plus souvent au 15 du mois avec le découvert autorisé, quand on a encore un découvert autorisé.
Tout à fait. Shirley, moi, alors, vous avez des enfants, vous,
oui,
en plus.
J'ai une de mes filles qui a des gros problèmes de peau, qui a des soins non remboursés. Mais on a choisi de manger quelques soirées des céréales pour pouvoir lui payer ses traitements, ses savons spécifiques et tout, quoi. Mmh. C'est des compromis.
Oui, c'est le choix de l'essentiel, quoi, uniquement. Voilà. Et en même temps, vous disiez, et l'un et l'autre, Frédéric disait, ça me permet d'avoir un logement, enfin de garder mon logement, là de faire manger mes enfants. Quelque part, effectivement, c'est une petite sécurité, mais c'est quand même une sécurité quand même. Est-ce que c'est une peur qu'un jour le RSA n'existe plus ? Est-ce que c'est une peur qui vous habite, ça, par exemple ?
Pour ma part, oui. Je ne suis pas à l'aise au RSA, contrairement à ce que certains politiques ont dit. Nous sommes les cancers de la société. On aimerait bien en sortir. Et souvent, on nous propose des contrats aidés de 6 mois, d'un an, qui retombent sur du chômage, hein, et qui retombent sur le RSA. Mmh. Donc, on s'en sort pas. Moi, ça fait pratiquement 5 ou 6 ans que je suis dans cette espèce de roue infernale dans laquelle j'en sors plus.
D'accord.
Donc j'aimerais bien une formation, quelque chose d'autre. J'échangerais tous les RSA du monde contre un vrai travail.
Voilà. Hein. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de se dire ça. Bon, on a le RSA aujourd'hui qui est notre petite sécurité, mais vraiment notre grande envie, c'est de trouver quelque chose.
Le RSA, c'est pas pour sombrer plus loin.
Oui. Voilà.
Enfin, quand vous dites que le RSA, c'est notre petite sécurité pour les personnes qui perçoivent le RSA, c'est la sécurité de tout le monde, moi, je dirais plutôt. Hein. Je sais pas, mais je pense que c'est ce qui fait que socialement encore il y ait une certaine paix quand même et que les gens puissent tous vivre. Le RSA, c'est une nécessité.
C'est une nécessité.
Au niveau de la sécurité, oui, tu peux dire la sécurité sociale au niveau de la société. Mais je veux dire, lorsque tu es en recherche d'emploi, il faut une adresse. Donc si on n'a pas de logement, on ne peut même pas se présenter pour un travail. Donc il est vrai que le RSA nous permet de pouvoir garder ce logement, cette adresse.
De garantir un minimum. Mais c'est vraiment pas vous, c'est ce que dit Frédéric, vraiment votre envie c'est d'aller bien au-delà, et on voit bien la difficulté. Olga avait aussi des choses à dire par rapport à ça, au niveau de vraiment l'envie de sortir aussi du RSA.
Oui, je pense que c'est pas une situation pérenne, je pense que c'est justement une situation qu'on vit en attendant quelque chose. C'est pas...
Vous avez tous envie, bien sûr, d'en sortir. Contrairement, parfois, à des choses qu'on vous renvoie, parce que ça... C'est aussi quelque chose qui est revenu, et tout le monde lève la main là déjà un peu. C'est ce regard des autres aussi souvent, et pratiquement tous autour de la table, en préparant l'émission, vous me disiez, on le dit pratiquement jamais qu'on est bénéficiaire du RSA. Pourquoi ?
On se sent stigmatisé par ce qui s'est passé, par ce que nous ont envoyé certains politiques, on va dire. Et puis aussi par la façon dont sont perçus les gens qui touchent le RSA, ou peut-être avant le RMI, je sais pas, mais le RSA, c'est clair à dette. On le dit pas. Si je suis dans une sortie, ce qui devient rare, je vais même pas dire que je suis au chômage, et encore moins que je suis au RSA. C'est vraiment quelque chose que je garde pour moi. Mmh. Moins de gens le savent, mieux je me porte.
Parce que c'est quoi ? C'est la peur qu'on vous renvoie ? Quoi ?
On pense que les gens au RSA sont des profiteurs, sont des gens qui sont en vacances en permanence, sont des gens qui ne font rien, qui se vautrent là-dedans, alors que franchement...
Se complaisent dans ça.
Oui, se complaisent dans...
Et ça, vous le ressentez concrètement ? Alors, on a entendu effectivement cette phrase « cancer de la société », donc là, plus de manière, une parole publique et politique, mais est-ce qu'au quotidien, vous le ressentez, ça, concrètement ?
Samedi dernier, on m'a dit quand même que ceux qui étaient au RSA, on devrait les exterminer, comme des cafards.
D'accord.
Samedi dernier, hein, c'est pas Dieu.
Est-ce que vous ressentez tout ça, ce sentiment d'être un peu, justement, discriminé dans cette semaine ?
Oui, parfois, il y a des gens qui disent « Ah, tu vis la belle vie parce que tu te réveilles quand tu veux. » Mais moi, je voudrais me réveiller à 6h du matin, avoir mes soucis avec mon chef, avec mes collègues aussi.
Oui.
Mais c'est pas tellement une situation que je choisis.
Voilà, c'est pas une situation que vous avez choisie. Ça, c'est important à dire.
Mais c'est pas une situation qu'on choisit. Ça, c'est quelque chose qui devrait normalement paraître évident. Parce que on est dans une société où on est dans la consommation. Et on est dans l'achat, en permanence. Et on vit par l'achat. On se construit par l'achat. Ou, on serait différent des autres et on n'aurait pas aussi envie, d'acheter et puis, d'avoir une voiture, d'avoir des tenues vestimentaires qui soient, au top, etc. Des choses comme ça, c'est véritablement quand on est dans ce genre de situation-là, on est rejeté déjà par, je pense, une des premières choses, c'est notre apparence, hein, premièrement. Parce que on est peut-être moins présentable que les autres. Si on vient chez nous, ben c'est pas aussi
apparemment pas. Hein, vous avez pas la caméra chez vous, mais voilà. Vous
oui,
êtes
mais
aussi
enfin,
présentable que d'autres.
Comment dire, c'est pas pareil. Moi, quand j'étais au RMI, à l'époque c'était encore le RMI, de 1997 à 2001 ou 2002, je ramenais personne chez moi. Mm-hmm. J'étais dans un foyer, je ramenais personne chez moi.
Mm-hmm. Ne pas dire qu'on habite dans un foyer, par exemple.
Bah oui, bah ouais. Surtout comment dire, c'est une marque d'échec. C'est une marque d'échec. Le monde de la réussite, c'est pour l'instant, c'est pas pour nous pour le moment.
D'accord. Donc en fait, parce que vous n'avez pas réussi, vous avez ce sentiment d'être un peu mis de côté et montré du doigt. C'est ça ?
Il y a beaucoup de gens qui montrent qu'ils ont réussi et puis voilà.
David ?
C'est là où je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur le sentiment d'échec. Il est vrai que quand vous avez pu l'entendre, du moins d'après nos présentations, nous avons tous un parcours professionnel. Certaines personnes ont des parcours même scolaires assez élevés. Cela montre bien que ça peut arriver à tout le monde. Et il est vrai qu'aussi, lorsque vous arrivez à un niveau social assez élevé, se retrouver comme ça avec plus rien... ça fait mal. Il est vrai que la société n'aide pas vraiment là-dessus. En France, on est vraiment dans une société de stigmatisation première. On l'a vu pour tout ce qui était le RSA, comme tu l'as rappelé, Frédéric. On l'a montré aussi sur les quartiers. Mais bon, il y a tellement d'exemples. Hein. On peut parler, je disais la dernière fois, le banquier, c'est un voleur. Il y a certainement des conseillers financiers extrêmement compétents. Nos politiciens sont des menteurs. Bon, il y a certainement des politiciens qui sont extrêmement compétents. Mais on ne vise qu'une minorité de personnes. Je trouve que au niveau des minima sociaux, il y a un nombre important de personnes qui veulent s'en sortir. Mmh. C'est ça le but. On veut s'en sortir. On veut travailler. On veut avoir quelque chose. On veut. On n'est pas des assistés. Mais le problème, c'est qu'il est vrai... comme tu as pu le dire, Frédéric, il y a des personnes qui profitent de ce système. Mais ça, encore une fois, c'est une minorité de personnes. Alors, et là, le problème, voilà, c'est la stigmatisation.
Est-ce que justement, cette petite partie de personnes éventuellement qui profitent du système, du coup, ça déteint sur l'ensemble des bénéficiaires d'un minima social ? Est-ce que vous avez cette impression-là ? Et du coup, on fait un amalgame entre tout le monde ? Mickey.
Le propre du discours démagogique, justement, c'est ça. C'est se servir des plus faibles pour justifier une politique ou un point de vue qui est propre à la personne qui veut véhiculer ça dans la société. Et je pense, moi, que ce dont on devrait plutôt parler, c'est de la précarisation des emplois. Les CDI, c'est de plus en plus rare. Maintenant, c'est les CDD, et puis il y a les emplois aidés, et puis... etc., etc. Et c'est de plus en plus comme ça. Mmh. Maintenant, on est en train de suivre le chemin des États-Unis où bientôt on va travailler, on sera payé à la semaine. Voilà, quoi.
D'accord. Pourtant, il y a de plus en plus de personnes qui sont, effectivement, vous l'avez dit, aussi bénéficiaires d'un minima social aujourd'hui. Plus en plus de personnes qui sont au chômage, bénéficiaires d'un minima social. Et effectivement, le regard de la société aurait pu évoluer, c'est-à-dire avoir un regard qui soit plus de compassion par rapport à des gens qui sont bénéficiaires d'un minima social. Parce que la vie est dure pour tout le monde. Et on le disait, ça peut arriver en écoutant vos parcours, ça peut un peu arriver à n'importe qui. Ça, vous le ressentez pas. Vous sentez pas que, du coup, y a plus, on comprend mieux aujourd'hui les gens qui sont bénéficiaires d'un minima social. Non, vous avez pas ce sentiment qu'on vous comprend mieux.
Non, parce que les gens qui veulent vraiment s'en sortir se retrouvent avec d'autres catégories de personnes. Donc, j'ai des amis qui sont au RSA que jamais vous douteriez, quoi. Mm-hmm. Ils ont une bonne position dans la vie. Malgré qu'ils aient perdu le travail, ils ont gardé l'apparence. Mm-hmm. Et ils le diront pas. Donc, les bonnes personnes qui sont au RSA, en fait, ne se montrent pas. Et on voit que les personnes qui sont résignées, on va dire. Ceux qui ont décidé d'arrêter de chercher du travail et tout. Il n'y a qu'eux qui se montrent. Les autres sont occupés tous les matins à se lever à chercher.
Alors, il y avait Olga qui avait levé le doigt aussi.
Et oui, je pense que c'est aussi important les côtés affectifs. Il faut s'aimer, il faut dire je peux sortir, je peux trouver quelque chose. Parce que les côtés affectifs, c'est tellement très important pour quelqu'un qui est récent.
La confiance en soi,
voilà.
Ça veut dire.
Voilà.
C'est-à-dire, alors ça c'est important, c'est quelque chose de nouveau dans le débat qui arrive, c'est-à-dire ne pas uniquement agir par rapport au regard des autres. C'est voilà. Un peu ça ce que vous voulez dire, Olga, c'est-à-dire savoir ce qu'on vaut.
Oui.
Au-delà de ce qu'on gagne, en fait.
Voilà. Parce qu'on est quand même personne, même si on est récent.
Oui, je voulais dire ne pas sombrer, parce que ça va vite de se laisser aller, de plus avoir confiance en soi, comme vous venez de le dire, et de ne plus avoir qu'un regard sur soi très négatif. Voilà. Il faut se battre au quotidien pour y croire encore. Ça, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à faire.
Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau aussi, c'est-à-dire vous avez beaucoup parlé du regard des autres, qui était très blessant, voilà des exemples un peu au quotidien de paroles qu'on pouvait aussi vous renvoyer. Et là, on vient d'entendre Frédéric dire, c'est le regard aussi sur nous. Des fois, on est nous-mêmes en train de nous sous-estimer. Vous le partagez ça aussi?
Surtout, oui, comme vous venez de le signaler, ou comme Frédéric vient de le dire, le regard des autres, parfois c'est nous-mêmes qui nous l'imaginons. Et c'est là où on renvoie une image de soi, mais qui parlait d'échec. Et il est vrai qu'on a l'impression de se dire, quand on se promène en ville, aller à Nancy, en centre-ville, et voir tous ces magasins, et ça nous freine un petit peu. Mais on a l'impression d'avoir un panneau au-dessus de notre tête disant, attention, je suis en minima social. Déjà, même pour faire même des rencontres, discuter avec des gens, c'est même extrêmement difficile. Parce que tout de suite, on a un rapport avec l'argent, on a un rapport avec le statut social, on a un rapport avec tout ça. Et là, même pour une discussion, une simple discussion, on est bloqué, on se met une barrière.
D'accord, ça c'est aussi important, c'est-à-dire que c'est un peu tout est lié. On le voit là dans l'évolution de l'émission, c'est-à-dire ce revenu minimum qui empêche aussi d'avoir quelque part des relations sociales, vous donne un sentiment d'isolement, de solitude et l'impression un petit peu de tourner en rond. Est-ce que c'est valable pour tout le monde, Shirley? Quand on a des enfants, par exemple, est-ce que ça c'est quelque chose qui motive, qui permet aussi d'avoir un statut autre qu'on peut se donner? Autre que bénéficiaire d'un minima social, quoi.
Bah, en ce moment, je suis aux ACDIC et les RSA va revenir au mois de juillet. Je peux vous dire que je vais trouver du travail pour pas me retrouver encore dans cette galère.
Et là, c'est aussi pour les enfants, quelque part aussi. On fait des choses.
En priorité pour eux, parce que, attendez, faut les habiller. Après, il y a les remarques à l'école, si on n'a pas les belles trousses ou tout ce qui est bien. Même parce que s'il y a un petit problème, ben, faut assurer, quoi. Quand vous savez qu'il vous reste 30€ de marge dans votre budget, faut faire le choix, quoi. La nouvelle paire de baskets qu'il faut ou comment on s'organise. C'est l'horreur.
Et alors, quels moyens vous prenez, quelque part aussi, ou vous trouvez, ou quels moyens vous sont donnés pour justement vous aider à, effectivement aussi, reprendre contact, renouer des liens, voilà. Est-ce qu'il existe des choses? Oui.
Alors, moi, j'ai rencontré deux CMS, centres médico-sociaux, Frédéric Gross, pour ne pas le citer, et Calmette.
On peut les citer,
les deux. Qui m'ont proposé ce qu'ils appellent des modules. Alors, le premier s'appelait Déclic. C'était sur 3 mois, je crois, 3 fois par semaine, où on a un petit peu parlé de nos problèmes, on a rencontré d'autres gens, on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul à être dans des galères de minima sociaux. Ça nous redonne confiance en soi, ça nous redonne la pêche, ça nous redonne envie de nous battre. Envie de rechercher du travail, envie de, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des stades différents, voire dans des stades où ils n'y croient plus, où ils ne sortent plus, où ils se laissent aller, où, comme le disait David, on ne peut plus s'acheter de fringues. Moi, ça fait 2 ans que je ne me suis pas acheté de vêtements, par exemple.
Donc ça, c'est clair.
Et donc ces modules, il y en a plusieurs. Relooking pour avoir de nouveau
un look sympa aussi,
un ça look un pour rechercher aussi, du travail, voilà. Pour ça c'est important,
ouais. Et donc ça, on sent bien que c'est des lieux qui permettent aussi de redémarrer quelque chose.
C'est pas ce qui va nous retrouver du travail, mais ça va nous aider à retrouver du travail. Ça va nous donner confiance en soi.
Et ça, voilà. C'est le mot
et
clé.
Et l'écoute de professionnels très sympathiques.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Et ça, c'est des choses peut-être importante à entendre aussi, je pense à nos auditeurs aussi, c'est-à-dire que c'est pas une question uniquement de vraiment de revenus, c'est que tout va très vite ensuite, et qu'ensuite pour retrouver du travail, ben il y a peut-être des étapes aussi à mettre en place, et ça c'en est une. Mais qui?
Le plus longtemps on reste dans une période d'inactivité, le plus c'est difficile. Et il faut pas croire qu'être dans l'inactivité c'est facile. Il y a peut-être des gens qui supportent ça parce que je sais pas, c'est peut-être leur tempérament, mais comme le dit doit être d'accord à mon avis la plupart des gens qui sont autour de cette table, c'est pas quelque chose de facile d'être dans l'inactivité. Il y a les associations heureusement qui nous permettent de sortir et puis de fréquenter des gens, de rediscuter, de parler de nos problèmes, de ce que l'on aimerait bien faire, de nos projets, si on peut encore avoir des projets. À Nancy encore, on a encore cette chance d'être bien fourni en association, quoi. Moi je connais l'association Espoir 54 et puis l'association Ensemble, qui sont des associations qui se consacrent pour une grande partie aux personnes atteintes de troubles psychiques, et je sais que c'est eux qui m'ont sorti de l'isolement. Sinon je ne fréquentais plus que ma famille, j'avais perdu tous mes amis parce que c'était insupportable. C'est vrai que c'est difficilement supportable quand on n'est pas stabilisé de rester avec quelqu'un qui est malade comme ça, quoi. C'est je leur ai pardonné, j'ai tout à fait compris, quoi. Mais bon, parfois il faut des, dans mon cas il faut des structures qui sont adaptées ou adéquates pour faire en sorte que la personne puisse rebondir et puis repartir après sur par exemple un nouveau traitement ou des choses comme ça, quoi. Voilà, quoi.
Exactement.
Mais sur le plan associatif, Nancy, c'est bien, il faut encourager ça, il faut encourager les associations,
la vie associative, quelque chose de très important. Aussi et le collectif, se retrouver aussi avec d'autres pour échanger, et on sent bien que ça vous redonne aussi du tonus pour exister, quoi. Dire quelque part, le fait d'échanger, de parler, on existe à nouveau, plus être tout seul. David, qui voulait intervenir
Par rapport sur
au parcours l'inactivité. Alors surtout quand on a eu une activité professionnelle intense.
Lorsque l'on a toujours travaillé et que malheureusement il vous arrive un pépin médical, moi en théorie depuis 2006, je ne devrais plus rien faire. Je devrais rester alité, je devais plus de travail, ne plus faire de... Bon, déjà le sport, ça c'est... Je suis un peu trop vieux maintenant pour ça, moi qui étais ancien sportif de haut niveau. La moto, je ne devrais plus en faire, je ne devais plus rien faire, je ne plus travailler du tout. Je me suis battu, que ce soit avec la CPAM, avec les médecins, j'ai fait faire des expertises, contre-expertises, contre-contre-expertises. J'avais pas de chance, ils étaient toujours d'accord. J'ai été jusqu'à aller à l'IRR, l'Institut de réadaptation et de rééducation de Nancy, pour pouvoir travailler, pour pouvoir dire « mais laissez-moi tranquille, je veux travailler ».
Vous, c'était une manière d'exister vraiment, quoi.
Ah, mais je ne peux pas supporter d'être inactif. Donc imaginez, moi, depuis 2006. Donc en plus de ça, vous êtes au RSA. Si en plus vous êtes travailleur handicapé, ce qui est encore une tare supplémentaire, donc discrimination supplémentaire. Et il est vrai que les associations, les CMS font énormément de bien. Et on ne tire pas sur l'ambulance en parlant du RSA, des minima sociaux. Ils sont très, très utiles.
Ça permet un peu ce que
ça permet de ne pas s'effondrer, de ne pas se retrouver à la rue et de pouvoir rebondir. C'est fait pour rebondir.
Exactement.
Donc nous, le but, c'est vraiment de retrouver un travail, de se remettre sur pied socialement, de se remettre sur pied humainement, pour pouvoir après être plus compétitif sur un marché du travail qui est extrêmement difficile actuellement, hein, avec l'Europe et tout ça. Moi, au niveau association, il est vrai, comme je disais, au niveau des passions, toutes les choses que je ne pouvais plus faire, la moto, je suis l'heureux possesseur pour encore un an, merci à mon assurance, parce que je viens juste de payer ma quittance. Donc je suis l'heureux possesseur d'une moto, d'une marque américaine.
Qu'on ne citera pas.
Qu'on ne citera pas, mais qui fait pas mal de bruit. Je fais partie d'un groupement sur Nancy, Motoclub Lowrider, d'où fait partie un célèbre joueur de basket, ancien joueur de Nancy, que je ne citerai pas non plus.
On peut là, c'est pas une marque. C'est pas une marque.
On peut citer donc Cyril Julien fait partie du club. Et nous aidons une association qui est l'association Claire Joie pour les enfants. Et nous leur proposons des balades en moto. Et il est vrai que de pouvoir sortir, prendre ma moto, Déjà, qui a été un énorme défi pour moi, vu que les médecins me disaient que jamais plus je ne toucherai une moto. Ça a été un petit pied de nez que j'ai pu leur faire. Ça fait du bien.
Est-ce qu'on se sent utile, là, du coup,
à nouveau ? Bien sûr, bien sûr.
Là aussi, c'est pouvoir retrouver aussi une utilité, peut-être. Là aussi, j'entendais assez régulièrement dans la préparation, c'est qu'on n'a plus l'impression d'être acteur de quelque chose dans la société quand on est bénéficiaire d'un minima social. Et c'est peut-être ça aussi qui pèse le plus. La solitude, l'inactivité, ça vous le dites très bien. Et comment on fait, alors, pour continuer à être un peu acteur de cette société ? Les associations, oui, Mickey ?
Moi, je pense qu'il faut essayer de stimuler les gens. Et la stimulation des gens, elle vient essentiellement par le contact. Mmh. Et c'est en entrant en contact avec les autres que on va se sentir le besoin de devoir faire quelque chose. Mmh. D'où l'importance de ne pas rester seul et de ne pas s'isoler.
Mmh. L'importance pour vous, mais aussi peut-être l'importance pour les autres aussi de rencontrer effectivement des personnes qui sont bénéficiaires de minima sociaux et de voir aussi les personnes qui se cachent derrière, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une étiquette qu'on met sur quelqu'un. Ça, c'est peut-être important aussi d'aller à la rencontre des gens. Une émission comme celle-là, elle va peut-être aussi pouvoir montrer un petit peu quelles sont vos vies, quels sont vos projets, quelles sont vos passions, vos attentes, vos envies. Est-ce que ça, vous avez envie d'aller un peu plus aussi peut-être à la rencontre des gens, pouvoir rencontrer des gens qui soient pas forcément bénéficiaire de RSA.
C'était pour montrer ça, c'était montrer que ça peut arriver à tout le monde. Un pépin médical, une entreprise qui ferme, ça arrive à tout le monde. Mmh. Que vous ayez un niveau social élevé ou pas.
Et pour changer le regard aussi, peut-être, de cette société, ces rencontres-là sont peut-être aussi juste des occasions simples, mais essentielles.
Je voulais dire, j'ai toujours eu comme j'ai bénéficié du RSA, je trouvais que j'avais une dette envers l'État, donc je faisais des animations bénévoles dans la rue pour les enfants. Parce que les parents qui travaillent ont leur enfant seul, dehors. Et à mes yeux, je leur devais ça, quoi, au moins aux parents. M'occuper de leurs enfants qui sont dehors. Et c'est quelque chose que, même quand je travaille ou que je travaille pas, je continue toujours.
Là aussi, être utile.
Être utile.
Olga, vous avez quelque chose à dire, vous, par rapport à ça, cette inactivité, ce sentiment de pas forcément être utile dans la société? Est-ce que vous le ressentez, ça, ou pas?
Je ne veux pas dire, dans mon cas spécifique, j'essaie de faire des choses pour entretenir ma tête.
Oui.
Des sorties, de lire, me promener.
Oui.
Mais surtout de continuer tout le temps à la recherche d'emploi. J'ai fait des modules,
des ateliers.
Des ateliers aussi pour la recherche d'emploi, pour remettre à niveau mes connaissances. Parce que c'est vrai que quand tu restes longtemps sans travailler, mm-hmm. la vie laborale va vite. Il faut être tout le temps à même rythme. Mm-hmm. Il faut aller tout le temps au même rythme que la vie laborale. Mais si on est à la recherche d'emploi et tu trouves quelque chose à faire, après, si tu dis, ah non, et ça fait déjà 3 ans que je ne touche pas à l'ordinateur. Pour dire une chose, il faut être tout le temps à...
Donc garder le rythme et puis se mettre à niveau, continuer aussi à être un peu opérationnel par rapport au marché du travail.
Je pense que ça ne peut pas durer toute la vie. Parce que même la situation comme ça, ça fatigue un petit peu.
Ouais.
Parce qu'on se dit tout le temps, je suis préparé, j'ai fait des études, je peux faire quelque chose d'outil. Mm-hmm. Et maintenant, j'ai fait jusqu'à la formation.
Ce qui est fatigant, alors ça fatigue, ça, elle vient de nous dire, Olga, c'est fatigant d'être dans cette situation-là, et on l'entend bien hein, par rapport à ce que vous venez de nous dire. Qu'est-ce qui est fatigant? C'est de se dire, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce qu'un jour il y aura une solution après le RSA? C'est des questions que vous vous posez, ça?
Moi je dirais, c'est de sortir du RSA. Comme je disais tout à l'heure, c'est une espèce de...
On n'en
sort pas, un cercle vicieux.
Voilà, cherchez
le terme.
C'est un cercle
vicieux. Ouais. C'est contrat aidé, RSA, chômage, contrat aidé, RSA, chômage.
Ouais.
Et arrive un moment, on a l'impression qu'on pourra pas faire autre chose.
Ouais.
Et c'est ça qui est le plus difficile. Une fois qu'on l'a fait une fois, on se dit bon, on va bien me proposer autre chose. Mais moi, ça va faire, 5, 6 ans, peut-être 7 ans que je suis, mmh. dans cet espace RSA, je veux dire. Et c'est vrai que ça commence à faire long, parce qu'on ne vit pas avec le RSA. C'est juste, comme le disait David ou Mikey, c'est un moyen de pas sombrer plus.
Exactement. D'autres choses par rapport à ça, par rapport à l'angoisse de peut-être de la suite.
Oui. Je veux dire une chose, c'est que avant tout, on est des êtres humains et que le travail n'est pas ce qui nous caractérise fondamentalement. Et il ne faut surtout pas l'oublier. Travailler, c'est une nécessité pour vivre. C'est quelque chose que je comprends parfaitement, mais ce n'est pas ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes ou ce que nous devons être ou ce que nous voulons être avant tout. Donc, surtout, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, ben, et que vous l'avez pas vu depuis longtemps, la première chose que vous lui demandez pas « qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie ?» Vous lui demandez « comment ça va ?» Voilà.
Et souvent, quand on se présente, c'est souvent par ce qu'on fait, malheureusement. Effectivement, la société d'aujourd'hui, c'est quand même « qu'est-ce que tu fais ?» Ouais.
Je ne suis pas trop d'accord avec toi, parce que si nous sommes aujourd'hui dans cette table, c'est justement parce qu'on n'a pas de travail.
Oui, c'est le thème du débat. Mais le thème du débat, il faut essayer d'en sortir pour essayer de relativiser les choses et de se rendre compte quand même que même si on est dans une société capitaliste, même si on est dans une société où il faut produire, on n'est pas que ça. Il faut surtout pas penser que l'on n'est que ça. Sinon, c'est quelque chose de très grave.
Donc, ce que veut dire Mekki, peut-être, c'est on n'est pas uniquement ce que l'on fait ou ce que l'on gagne. Et c'est vraiment l'objectif de
cette
table ronde.
Les richesses que l'on apporte aujourd'hui à la société, elles sont pas forcément quantifiables. On peut apporter d'autres types de richesses. On peut contribuer au bien-être des gens et puis même à la production de manière totalement indirecte sans que ce soit quantifiable.
Donc, les associations, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Alors, tout le monde s'est levé le doigt. Donc, Shirley, peut-être?
Ben, moi, j'ai été élevée dans une région où c'est que, le travail fait l'homme. C'est pas l'argent. C'est pas ce que tu gagnes, comment tu le fais. Mais tu travailles. T'as deux jambes. Tu travailles.
Ouais.
Donc, je peux vous dire que ça, dans le Sud, c'est ancré dans nos têtes, quoi.
Ouais.
Et on n'est rien si on ne travaille pas. Qu'importe ce que je gagne, je travaille. Voilà ce qui compte.
Voilà. Donc, la fierté aussi, quelque part, de ça, de faire quelque chose.
Oui, enfin, moi, je suis un peu d'accord avec tout le monde, comme ça, et
c'est
en même
bien.
Temps avec personne.
Et avec vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord
des fois,
avec vous-même?
Ouais.
D'accord.
Et non, mais mon mec qui a raison. Hein, il faudrait pas que tout soit uniquement quantifié ou quantifiable par rapport à l'argent ou par rapport au travail, parce que ça revient un peu au même. Hein. C'est difficile d'avoir de l'argent sans travailler. On en est la preuve. Mais en même temps, on est une société très hiérarchisée. Hein. On le voit tous les jours, partout, à la radio, tout le temps. Hein. Les gens dont on parle sont des gens souvent qui ont le pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'argent. Et comme vous avez dit tout à l'heure, en général, quand on vous demande « Salut, comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est la première chose qu'on va vous demander. Alors vous n'allez pas leur sortir, ça y est, hein, je suis guignol au RSA. Mmh. C'est pour ça que, oui, je suis d'accord avec Mekki, je suis d'accord avec Olga, hein, mais en même temps, c'est la société telle qu'elle est faite maintenant. Alors à moins de changer de société, hein, voilà.
Olga ?
Oui, on a parlé tout à l'heure de la solitude, du regard des autres. La exclusion, la discrimination, mais je pense que quand on a un travail, c'est pas forcément qu'on a réussi à avoir toutes ces choses, mais c'est aussi un motif à vivre. Ça veut dire, je me réveille demain, j'ai un projet à faire, je rentre chez moi, c'est pas rester toute la journée sans rien faire. Si on parle tout le temps de la solitude, je pense que même quand tu travailles, et tu peux avoir des amis, des collègues, qui après travailler, tu dis, oh, on va avoir un coup.
Mais là, c'est... vous posez des questions de fond. Hein. Il faut au moins trois émissions, c'est-à-dire le sens aussi qu'on peut donner à sa vie.
Je pense que, à mon avis personnel, je pense que la première chose à faire, c'est de trouver un travail. À partir de ça, tout vient.
Voilà, mais ça règle pas forcément tout, parce que comme vous le dites, c'est-à-dire ça évite pas la solitude ou autre, mais c'est effectivement avoir un objectif.
Oui, parce que elle parle de c'est difficile de sortir avec un enfant tout seul, mais là, la chance aussi, quand elle rentre chez elle, il y a un enfant qui l'attend.
Mm-hmm.
C'est pas la même chose de gens qui n'ont pas d'enfant.
Oui,
il faut voir aussi le côté positif de la situation.
J'aime mes enfants plus que tout, mais des fois il m'arrivait souvent de culpabiliser de les avoir emmenés dans cette histoire, quoi.
Voilà, mais c'est des choses qui arrivent même à les gens qui ne sont pas bénéficiaires de ça. Je n'arrive pas à acheter quelque chose à mon fils, je ne peux pas l'envoyer en vacances.
Oui. Alors, je vais rebondir là-dessus avant de donner la parole quand même au public et avant que vous puissiez conclure. C'est-à-dire, Olga vient de nous dire, c'est important aussi de voir le positif dans tout ça. Est-ce que vous, il y a des choses positives que vous avez aussi trouver envie de partager, vous en avez déjà partagé certaines, c'est-à-dire vos rencontres avec des gens au niveau du CMS qui vous ont permis de recréer un peu de liens. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes sur vous dans cette période un peu compliquée, difficile aussi Est-ce qu'il peut y avoir du positif aussi?
Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens du CMS, oui, ça m'a permis de voir qu'il y avait des gens qui s'occupaient de nous vraiment, qu'ils avaient une autre façon de travailler. Comme j'avais côtoyé aussi les travailleurs sociaux dans ma vie professionnelle. Ouais. C'est aussi pour ça que quand ils, je dirais, entre guillemets, font appel à moi pour venir avoir des subventions, hein, je vais les aider et défendre cette façon de travailler. Oui, ça m'intéresse. Et puis, bon...
Est-ce que ça vous a permis, vous, personnellement? Est-ce que ça, ces rencontres avec le CMS, ça a été vraiment stimulant?
Oui, nous rendre compte que je n'étais pas le seul à être dans ma situation. Déjà, essentiellement, c'est ça.
Et ça, c'est important. Je ne suis pas tout seul.
Ouais. J'avais perdu peut-être les liens avec... Je ne sortais plus, je ne faisais plus rien. Mm-hmm. En tout cas, plus grand-chose.
Je ne suis pas tout seul à être dans cette situation-là. Ça peut aussi peut-être sortir... aider à sortir de ce regard des autres très pesant, quoi. On a l'impression que on est regardé uniquement parce qu'on est bénéficiaire du RSA et peut-être rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose.
Qui vous ont regardé comme des êtres humains et pas comme des bénéficiaires de minima sociaux.
Mais qui?
La pauvreté, ça a quelques avantages, c'est que la sincérité, c'est plus facile à voir chez les gens, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, si vous voulez, moi j'ai appris le partage dans la pauvreté, j'ai appris l'importance du partage et ce que ça me renvoyait à moi, ce que ça me donnait à moi comme plaisir, comme joie, vraiment comme bonheur. Et aujourd'hui, le partage, il se fait, on me donne à moi pour pouvoir vivre, quoi. Je suis reconnaissant à la société de ça. Je vais essayer, comme j'en avais pas parlé, mais bon, j'ai intégré un service qui va essayer de voir si il serait possible pour moi de trouver un emploi et de me rendre utile. Mais de toute façon, ma vie ne sera à moindre que je trouve un métier qui, enfin, un boulot dans lequel je puisse complètement m'épanouir et puis qui me botte complètement, quoi. Mais l'important pour moi, c'est d'être heureux. C'est pas de travailler. C'est d'être heureux.
David.
Oui, moi je voulais revenir là sur ce que disait Frédéric. Au niveau, moi le RSA, je ne le connais que depuis 4 mois, parce que j'ai eu un long combat pour pouvoir prétendre à pouvoir retravailler. Donc moi, je vous dis, je suis retombé directement là-dessus. Il est vrai que quand vous rentrez dans ce milieu-là, vous êtes tout de suite encadré. Alors après, on peut stigmatiser sur l'idée d'être désassisté, non. Parce que moi, ma première réunion, ça a été, nous avons, avec une ASP, nous avons une obligation de moyens, mais pas de résultats. Et je n'ai pas été choqué par cette phrase-là, pour retravailler. J'ai pas été choqué par cette phrase-là, au contraire. Moi, ça me permet de me dire, je peux me dépatouiller pour retravailler. Mais par contre, tout ce que font les CMS, je n'ai pas eu de subvention de la ville de Nancy pour dire ça, mais franchement, la ville de Nancy fait quand même pas mal de choses. On est quand même dans un département où ils font quelque
aussi.
Chose, et mine de rien, en France, on a quand même des minima sociaux. Donc on ne tire pas sur les minima sociaux, hein, sur ce débat. Moi, pour moi, le débat, c'est vraiment, c'est l'image. J'en ai marre qu'on montre les personnes en minima sociaux comme quoi ce sont tous des cas sociaux, quoi, des personnes qui n'ont pas d'études, qui n'ont rien fait et qui sont des feignants et qui veulent profiter de la société. Non, c'est pas ça.
Je crois qu'on l'aura bien compris dans notre échange d'aujourd'hui. Juste, alors, un dernier mot, Frédéric, et puis on va laisser
intervenir. Mais qui, je suis entièrement d'accord avec lui, mais je vais me permettre pour la fin de citer une petite phrase de Michel Audiard. Hein. Dans la vie, on ne partage que la merde, jamais l'argent.
Bon, alors ce sera pas notre phrase de conclusion, tout à fait en tout cas, mais on va laisser intervenir les gens qui... Parce que je rappelle que c'est une émission publique. Maintenant, n'hésitez pas, si vous avez des réactions, des questions à poser, à le faire. On va se donner 5-10 minutes pour ça. Et puis ensuite, on conclura l'émission avec nos invités. Si on peut conclure une telle émission, parce que ce n'est qu'un début. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, Yves va vous passer le micro.
Bernard, Oui, j'ai été vraiment très impressionné par tout ce qui a été dit, des difficultés que vous vivez. Quand on n'est pas au RSA, on n'imagine pas. Difficultés matérielles, vous les avez bien expliquées. Et puis, difficultés morales, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire de l'image que vous pouvez avoir de vous-même. Alors que on est tous égaux, quel que soit le revenu qu'on a, on est vraiment tous exactement les mêmes. Donc ça fait vraiment mal d'entendre ça. Je voulais aussi dire que j'avais été impressionné par la profondeur de vos réflexions. C'est assez remarquable et ça montre que finalement vous avez quand même su quelque part tirer profit de votre situation. Vous avez certainement fait un gros travail sur vous-même, certainement douloureux, mais en tout cas qui vous a apporté un regard très profond sur votre vie et sur la société. Et alors je voudrais terminer par une question. Ayant moi-même travaillé longtemps dans la formation professionnelle, je voulais savoir quel regard vous avez sur la formation professionnelle, quel rapport vous avez. Est-ce que on vous a fait des propositions? Est-ce que vous êtes servi de ce moyen quand même qui est souvent nécessaire, mais en tout cas pas suffisant, mais souvent nécessaire pour trouver un emploi?
Alors, qui veut répondre à cette question au niveau de la formation? C'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé, Frédéric l'a évoqué. Shirley veut intervenir.
Moi, c'est ce que je souhaitais, avoir une formation qualifiante, et je l'attends encore parce que je m'étais mis dans l'animation et c'est très compliqué en fait pour avoir les subventions.
Donc très compliqué apparemment de trouver une formation. Frédéric est un peu passé par là aussi, puisqu'il y a eu des bouts de formation.
J'ai essayé d'avoir une formation par une entreprise, et chaque fois, il n'y a pas longtemps, j'ai passé un concours, on était 15 pour un poste. Donc ils en ont pris un, il y en a 14 qui sont restés sur le carreau. C'est, comme le dirait Charlet, très difficile d'avoir une formation, de la faire financer surtout.
De trouver le financement.
Le financement, oui.
Là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonsoir, je m'appelle Laura. Donc, ce sera pas une question, mais juste une remarque par rapport à cette notion d'utilité et de se sentir acteur sur le fait que, quand on rencontre quelqu'un, c'est salut, comment ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il n'y a pas forcément besoin de travailler pour se sentir utile et se sentir acteur. Et je pense qu'on a autour de cette table l'exemple parfait, c'est David, qui ne travaille pas et qui pour autant rend heureux et fait partager un petit moment de bonheur à des bouts de chou en leur faisant faire un tour de moto. Et ça, je pense qu'il y a énormément de gens qui travaillent et qui ne se donnent pas cette peine-là.
Effectivement. Est-ce que David est d'accord?
Il est vrai que j'avais précisé l'association Clairejoie, mais il est vrai aussi, je n'ai plus son nom, il y a aussi une maison de retraite à laquelle nous faisons faire aussi un tour de moto à des personnes âgées. Elles adorent ça. C'est même des fois très difficile de les faire descendre.
Transmission de la passion des plus jeunes aux plus âgés.
Je n'avais pas précisé parce que je ne me rappelais plus du nom.
Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le travail qui rend heureux? Olga.
Le travail qui rend heureux, mais je pense que ça aide beaucoup, être heureux.
Ça aide beaucoup, oui, quand même.
Oui.
Moi, je reste citoyenne grâce au bénévolat pour les enfants que je fais quotidiennement.
Ça aussi, c'est important, c'est une notion importante, c'est-à-dire de rester citoyen, quelque part, acteur de la société. Et ça, effectivement, on peut le faire à d'autres niveaux qu'au niveau de son travail. Et souvent, parfois, des gens qui travaillent n'ont plus le temps d'être acteur autrement. D'autres choses? Non. Je pense que on va pouvoir conclure. J'avais envie de ouvrir pour la suite, c'est plutôt un peu ça. Vous demandez peut-être une conviction, une proposition, un mot que vous avez envie de nous partager par rapport peut-être à ce que vous envisagez pour la suite, à ce que vous avez découvert peut-être à travers ce débat, ou peut-être à travers cette expérience un peu compliquée, mais qui effectivement, je pense, on le voit bien quand même, porte des fruits, en tout cas humains. Et je pense que c'était important aussi de faire passer ce message-là. Qui veut démarrer?
Moi, ça serait deux mots.
On peut.
Si c'est possible.
Oui.
Image et volonté. L'image, c'est l'image qu'on a de soi-même. On s'en moque de ce que les autres peuvent penser de nous par rapport à la vie quotidienne, je parle. Et la volonté, parce que si on a un but, il faut se donner à fond pour le faire. On a des difficultés pour retrouver du travail, que ce soit par le biais d'être un travailleur handicapé ou que ça fait trop longtemps. Moi, j'ai eu des propositions intéressantes de postes de travail, mais vu que sur mon CV, ça s'arrête à 2006, c'est un petit peu plus compliqué. Mais la volonté, si on se donne les moyens de faire toutes ces choses, d'aller à ces réunions de CMS, de se renseigner, on peut s'en sortir.
Tout à fait.
Et là, en ce moment, on essaye de partir sur un projet professionnel qu'on monte pour s'en sortir. Voilà.
Là aussi, vers l'espoir quand même, David. Hein. Shirley.
Je voudrais remercier mon assistante sociale si elle m'entend parce qu'elle a l'EASP et si elle m'avait pas boosté pour participer à des réunions au départ avec le conseil général, je crois que je serais déprimée et puis j'aurais pas fait ce beau relooking.
Donc un merci.
Un merci.
Un mot, c'est merci. Mais qui ?
Moi je voudrais dire que en fait j'ai été pauvre toute ma vie et quand j'ai cru que j'allais pouvoir m'en sortir grâce aux études, ben c'est la maladie qui m'est tombée dessus. Mais je crois que en fait c'était le meilleur chemin pour apprendre ce que je voulais apprendre, quoi. Voilà.
Merci Mickey.
Moi je l'ai déjà dit tout à l'heure, remercier les gens de Frédéric Gros et Calmette, hein, je fais de la pub.
Là on fait de la pub, hein. Il y en a dans la salle, là ils sont contents. Oui.
Et puis
Frédéric.
Sortir du triptyque, si je puis dire, contrat aidé, chômage, RSA, contrat aidé, chômage, RSA. Pour franchement. Ça fait trop longtemps que ça dure.
Sortir du cercle infernal. Olga.
Je ne sais pas si c'est un peu utopique, mais je pense que il faut être tout le temps positif. Ça veut dire que j'ai envie de sortir, je peux sortir. Mais surtout parce qu'on compte sur le moyen avec les instances sociales, tous les, même l'ERSA, qui s'aide aussi à avoir un loger digne. Comme je n'ai pas envie de rester toute ma vie à ça, je peux sortir.
Sortir du RSA, en fait.
Voilà, c'est ça.
Ben, ce sera le dernier mot de cette émission. Moi, je voulais juste vous dire que j'ai vraiment été très heureuse aussi de travailler avec vous, de préparer cette émission, parce que au-delà, on l'a bien senti, hein, du côté difficile, des blessures, des fragilités. Vous avez beaucoup de force, beaucoup d'envie, beaucoup de sincérité. Et ben, soyez certains que l'avenir reste ouvert et surtout que vous valez plus que ce que vous faites ou ne faites pas, d'ailleurs. Voilà. Et je vous rappelle également que jusqu'au 22 mai, il y a un peu partout sur le département différentes animations qui vous permettent de vous sensibiliser aux questions des discriminations et sont comme des invitations à mettre un peu de fraternité dans notre quotidien. Donc à bientôt sur Fadjet. Merci à tous et merci aussi à Jean-Luc pour la réalisation technique de cette émission. Bonne fin de journée.